seconde journée de ce cercle d'études. Et merci aussi à tous ceux qui se sont inscrits par Zoom pour suivre cette journée. Je ne sais pas si Malika m'a dit tout à l'heure qu'il y avait une centaine d'inscrits, ce qui est bien plus que le nombre de participants lors de la première journée. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge du sujet ou l'éternel féminin qui vous a attiré, mais il me semble important de... Pendant le séminaire d'été, la semaine dernière à Nice, plusieurs personnes sont venues me voir pour me dire qu'elles étaient très, très intriguées par le titre que nous avons donné à cette journée, mais j'y reviendrai. Juste rappeler que ce cercle d'études qui a, si je ne me trompe pas, plus d'une quinzaine d'années, a été fondé par Jacqueline Bonneau à la demande de Charles Mellman. Pour venir justement explorer cette clinique particulière, sur laquelle, en tout cas dans le cadre de l'ALI, il y a peu de travaux. Et j'ai découvert, en relisant l'affiche de cette journée, la façon dont c'était présenté. Malika me disait que ça avait été comme ça l'année dernière, comme quoi il y a des choses qui nous échappent, hein, mais c'est assez intéressant, hein. C'est journée organisée par l'ALI et le cercle d'études. Alors, vous voyez, c'est intéressant, ça vient dire quelque chose, parce que bien entendu, ce cercle d'études, c'est le cercle d'études de l'ALI. Hein. Et je rappelais tout à l'heure que ça avait été fondé à la demande de Charles Mellman. Et c'est le texte de Charles Mellman, Comment ne pas devenir de petits vieux, qui nous a servi de référence, de fil rouge pendant ces 15 années pour travailler. On pourrait peut-être dire aujourd'hui, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'a pris, c'est on va aborder aujourd'hui comment ne pas venir de petites vieilles. Alors, je voudrais aussi, avant de commencer à aborder cette question de l'éternel féminin, pour venir ouvrir un peu, les travaux de la journée, remercier particulièrement Carlos et secrétariat de l'ALI, sans le travail desquels, on n'aurait pas pu avoir cette journée et pouvoir, avoir ces échanges que j'espère vont être nombreux. Alors, l'éternel féminin, cette invention de Goethe dans le second Faust en 1832, à la fin de Chorus Mysticus. Je vous lis le passage où il parle de l'éternel féminin. Tout ce qui est transitoire n'est qu'un symbole. L'insuffisant trouve ici son accomplissement. L'indescriptible devient ici un acte. L'éternel féminin nous attire vers les hauteurs. Cela fait écho à cet adage populaire, pas de grands hommes sans une femme. C'est au-delà, dans ce que décrit Goethe, des attributs ou attitudes d'une femme, et cela ne peut pas être attribué non plus à toutes les femmes, seulement à pas toutes. Bonjour. Cela illustre le propos de Charles Mellman Une femme peut être à toutes les places, y compris celle d'une femme. Mais qu'a tenté de saisir Goethe dans cette référence à l'éternel féminin? Quand il parle de l'éternel féminin qui est cet attrait énigmatique, inaccessible, qui guide le désir de l'homme vers une transcendance. Vous entendez peut-être que ce n'est pas tout à fait l'objet A que recèle une femme pour un homme, à son insu d'ailleurs, comme le dessin de la chevelure de Thérèse pour Sergueï Pankéïev, pour ne citer que cet exemple. Cela renvoie à autre chose. Pour le dire autrement, ce que vise l'homme, c'est l'objet du manque chez une femme, qui l'habille de son fantasme. D'où le fait qu'elle n'en ait pas idée. Ce n'est jamais une bonne question dans un couple que de demander pourquoi tu m'aimes. Vaut mieux l'éviter. On risque des déceptions. Donc une femme n'en a pas idée et qu'elle puisse s'imaginer ce qui constitue son attrait, beauté, jeunesse, autrement dit, l'imaginaire d'un idéal féminin. Mais ce n'est pas tout à fait cet idéal féminin, celui des attraits, donc que désigne Goethe. C'est bien autre chose. C'est oublier d'une certaine façon que, comme me l'a souvent rappelé Rosaine Le Duault, le désir, c'est toujours le désir de l'autre. Et que ce qui va venir capter, saisir le désir d'un homme, c'est le désir d'une femme. Que ce qui est désirable, c'est le désir. C'est ça ce que Lacan vient dire dans la dialectique du désir. Voyez que ça déplace un petit peu la question de l'âge et du vieillissement du corps, hein. S'aperçoit souvent dans la clinique des femmes, y compris âgées, y compris quel que soit leur état d'apparence physique, hein, et on voit le leurre qu'il y a dans la chirurgie esthétique. On a pu voir plein d'exemples d'ailleurs à Nice sur la promenade des Anglais dans le fait que les cabinets médicaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la promenade des Anglais, c'est quasiment que des cabinets esthétiques. Hein. Alors c'est intéressant parce que ce leurre imaginaire alimente un marché, bien entendu, hein, alors que c'est le désir qui attire le désir. Une autre petite remarque. Alors, d'ailleurs, pour l'illustrer de façon assez intéressante, le premier cas clinique qu'on a travaillé dans le cadre du cercle d'études, donc il y a bien longtemps avec un collègue qui n'est plus là, malheureusement, c'était à propos d'une femme qui errait dans un couloir d'un EHPAD. Et ce collègue avait fait tout un travail pour réanimer son désir. Et de façon tout à fait étonnante, elle s'était relevée, avait repris une vie sociale. Voilà. Et il y avait très clairement un amour de transfert qui s'était mis en place. Et comme le dit Freud, l'amour de transfert a toutes les caractéristiques de l'amour. Et ce qui a été très drôle dans cette situation, c'est que fin d'après-midi de printemps, alors que cette femme invitait ce psychologue à l'accompagner faire un petit tour dans les buissons du jardin autour de l'EHPAD, il a pris peur. Il a pris peur. Vous voyez comment le désir vient à une femme qui avait 90 ans. Hein. Vous voyez comment le désir vient réveiller le désir de l'autre. Hein? Puisque j'évoquais Freud et que nous avons choisi cette année de prendre les choses du côté féminin, c'est peut-être aussi parce que dans ce secteur, dans cette clinique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Hein. Mais il faudra qu'on aborde le côté masculin aussi à un moment donné. Si nous avons abordé les choses de ce côté, du côté féminin, je voudrais juste faire une petite remarque et rappeler quelque chose qui m'a frappé au cours de l'été en réfléchissant à cette journée. Hein. C'est que si Freud s'est arrêté sur la question du vœu féminin, que veut une femme? Il me semble important de distinguer le vœu et le désir. Hein? Lacan rappellera que ce qu'on veut et ce qu'on désire, hein, sont le plus souvent opposés. On peut vouloir la paix, la tranquillité, hein, et désirer toute autre chose. Rappelons-nous que le désir, c'est une tension. Hein. Comme le rappelait Bichat, la vie, c'est une tension. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut pour les personnes âgées de la tranquillité, du bien-être? Voyez, ce n'est pas du côté ni du désir, ni de la vie, ça. Hein? On en avait parlé l'année dernière. Donc, Freud vient, s'arrête sur cette question du vœu féminin, mais il a cependant indiqué sur quel réel celui-ci venait buter. C'est-à-dire qu'une cure analytique, excusez-moi, mais mettez-vous peut-être devant, vous entendrez mieux si ma voix ne porte pas assez. Hein, souvenez-vous que Freud avait pointé le fait que sur une cure analytique pour un homme venait buter sur le roc de la castration et pour une femme sur le penis nine. Qu'est-ce que ça vient indiquer, ça? On entend sur le roc de la castration que c'est sur un réel que ça vient, pour reprendre les catégories lacaniennes. C'est sur un réel que ça vient buter. Mais ce qui est intéressant, dans les errances de Freud, ce qu'il vient quand même indiquer, c'est que ça ne vient pas buter, se buter au même endroit. Comme l'a dit un jour un petit garçon de 5 ans, vous comprenez, les garçons et les filles, ça pense pas pareil. J'avais trouvé qu'il avait repéré des choses de façon assez intéressante. Bon. Et donc, qu'est-ce que vient dire là Freud en parlant de ce pénis? C'est étonnant quand même. C'est étonnant surtout dans les trahisons de la traduction, hein, puisque pendant très longtemps, moi j'ai entendu la traduction de ce propos de Freud comme l'envie de pénis du côté du désir. Or, en allemand, c'est pas ce que ça veut dire du tout. En allemand, ça vient désigner la jalousie, la convoitise. Le ressentiment, le désir, c'est Wunsch. C'est tout à fait autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il vient indiquer, là, Freud? Ce que Lacan reprendra d'ailleurs dans le tableau de la sexuation. Hein, dans le tableau de la sexuation, vous voyez bien que les coordonnées du côté masculin et du côté féminin ne sont pas les mêmes. Et donc, qu'il y a du côté féminin à prendre en compte que la façon dont va être traité, abordé, ce réel du manque d'objet pour une femme, eh bien, ça vient buter sur cette envie, ce ressentiment, cette jalousie. Qui est insatiable. À moins qu'une femme puisse en faire autre chose. Et peut-être justement un désir. Je vous ferai remarquer que ce ressentiment, il occupe une grande partie de notre actualité sociale. Et il semble parfois tout à fait indépassable, d'autant plus lorsque l'expérience familiale ou sociale vient de lui donner quelques consistances. Et ça arrive. Et du coup, ça rend beaucoup plus difficile de pouvoir repérer que ce deuil vécu par une femme, c'est un deuil de structure, c'est un manque de structure. Eh bien, il me semble, si vous voulez, que c'est ce que Goethe venait pointer lorsqu'il parlait de l'éternel féminin, c'est-à-dire le fait que de cette envie, une femme puisse en faire un désir et puisse ne plus être dans ce ressentiment. Quand Freud pointait que c'était la beauté d'une analyse pour une femme, c'est que, à l'expérience, c'est assez fréquent que des femmes, y compris en fait des analyses, hein, eh bien ce ressentiment revient et revient de façon très vive, très forte. Comme s'il y avait quelque chose là qui était difficilement dépassable, comme peut l'être difficilement dépassable la castration pour un homme, hein, la rencontre de la castration pour un homme. Qu'une femme aille s'oriente dans sa référence au phallus, comme la flèche de Lacan l'indique. Dans le tableau de la sexuation, eh bien, c'est pas toutes les femmes. Voilà quelques petites réflexions que je voulais partager avec vous pour ouvrir cette question sur l'éternel féminin jusqu'au bout de la vie. Et je vais passer la parole à Bernadette Delorme, qui est psychologue et psychanalyste à Lyon, membre de la Ligue Lyon, et qui nous propose comme titre Littérature au féminin.
On peut vous poser une question avant de passer à quelqu'un d'autre.
Je vous en prie.
Hein? J'étais très intéressée par ce que vous nous avez amené. Et en vous écoutant, je crois vraiment que c'est la première fois que ça me vient comme ça, malgré ma longue clinique, je me suis dit, mais on parle de la femme comme si son désir ne pouvait être localisé que sur le sexe de l'homme. Mais elle peut désirer aussi bien une voix.
Mais bien sûr.
Hein, et à ce moment-là, quel est le rapport d'une femme au désir? C'est pas sur le même mode que si c'est un désir pénien. Et je pense que pour nous, lacaniens, on a vraiment à se poser cette question-là, parce qu'on fait tout toujours référence au phallus. C'est même pas au phallus à quoi on fait référence, c'est au pénis. Parce que le pénis, évidemment, peut renvoyer au phallus, mais la voix aussi, tout autant. Tout
Oui, mais
autant.
vous avez tout à fait
Hein?
raison.
Donc, se restreindre uniquement à cet objet pénien, pour la première fois, ça m'ouvre les oreilles en me disant, ben, non, là, on a quand même, j'ai eu en clinique des enfants qui désiraient chanter, et on entendait bien dans ce désirer chanter quelque chose qui les tenait en éveil. Et je pense que ça doit aussi être valable pour d'autres objets, mais là, d'un seul coup, ça me paraît comme ça. On a trop tendance à resserrer le désir d'un sujet, quel qu'il soit, parce que pour un homme tout autant, ça peut être la voix de sa mère qui peut l'éveiller au désir d'une femme. Hein, ça, pas forcément un désir sexuellement, phalliquement orienté.
Alors, vous avez tout à fait raison, hein. Mais justement, une voix peut soutenir le semblant phallique,
Bien sûr, mais
hein.
bien sûr.
Et alors, j'avais pas prévu de déplier cette. Comment procède Freud pour faire entendre ce qu'il découvre? Il procède. Ce que va pas du tout suivre Lacan, bonjour Rosel,
Voilà.
ce que va pas du tout
Je
suivre Lacan, Freud procède par métaphore.
vais me mettre devant. Hein.
Hein?
Je vais me mettre là.
Et donc,
D'accord. Vous avez du mal avec Paris un peu. Hein.
installez-vous.
Bonjour.
Bonjour.
On avait beaucoup de mal avec Paris, croyez-moi. Bon.
Installez-vous, Rosane, on va continuer.
Bon, écoutez, j'y arrive quand même. Donc, alors, bon.
Oui, Freud procède par métaphore. Qu'est-ce que ça vient dire pour lui de dire Penis Nine?
Vous avez mon sac, hein?
Hein? Qu'est-ce que ça vient dire? Vous entendez bien qu'il ne s'agit pas de prendre le propos de Freud au premier degré. Alors, qu'est-ce que ça vient indiquer? Ça nous demande de travailler un petit peu. Pourquoi il vient pointer ça comme ça? Hein? Il me semble que c'est une lecture que je vous propose, hein, que c'est ce qu'une petite fille va venir identifier comme ce qui pourrait lui manquer. De façon tout à fait imaginaire, puisque bien entendu, au corps d'une petite fille, il ne manque rien. Comme au corps d'un petit garçon, j'ai envie de dire, hein. Mais l'effet du langage sur le corps va faire que ce manque va être ressenti pour garçon comme pour fille. Et que bien entendu, la difficulté que va rencontrer tout enfant est de se poser la question, mais qu'est-ce qui me manque, puisque je le ressens, ce manque-là. Hein? Et c'est ça que vient désigner Freud. Hein? C'est-à-dire que, bien entendu, ça passe, et comment faire autrement, même si Lacan, pour nous éclairer, est passé par la logique, lui, mais vous savez très bien qu'à la fin de son enseignement, il est revenu pour donner toute son importance à l'imaginaire, dans la topologie borroméenne, hein? C'est que cet imaginaire, il est absolument nécessaire pour saisir l'expérience. Hein? Et il me semble que c'est. Mais vous voyez, ça demande à ce que lorsqu'on fasse référence à Freud, on fasse cet effort. Généralement, on laisse cet effort à Lacan. Voilà, il nous a expliqué Freud, Lacan. Mais ça ne suffit pas, ça demande à ce que nous aussi, on fasse cet effort et qu'on n'en soit pas réduit, après enseignement de Lacan, à lire Freud au premier degré. Hein? Quand il évoque cela, Freud, il sait apprendre sur un mode métaphorique, comme tout son enseignement. Autrement, totem et tabou, on n'y comprend rien. Enfin bon, la plupart de son enseignement, on n'y comprend rien si on ne saisit pas cette dimension-là. Hein. Et c'est tout le travail que Lacan a fait du retour à Freud. Hein. C'est de relire Freud, pas au premier degré, justement, comme c'était lu par les Freudiens à son époque. Voilà, pour. Continuer sur cette question. Mais vous avez raison, le désir, c'est quelque chose de tout à fait ouvert. et qui échappe au sujet. Le désir, c'est toujours le désir de l'autre. Hein? C'est quelque chose qui échappe au sujet. Hein? Toujours, on passe notre cure analytique, bien des fois, à faire en sorte d'arrêter de se défendre contre ce désir-là qui s'impose à nous.
Le désir, c'est le désir de l'autre, c'est le désir de l'autre sexe.
C'est le désir de l'autre, vous l'articulez comme vous voulez, hein, au sens subjectif, au objectif, et avec un petit A ou un grand A. Et c'est d'ailleurs ce que, excusez-moi, c'est d'ailleurs peut-être un peu le drame d'ailleurs de ce que peut produire la conceptualisation psychanalytique, c'est que s'il y en a qui ont très 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 bien compris cette dialectique du désir, hein, c'est les spécialistes du marketing. Et ils savent très bien comment faire en sorte de venir susciter le désir. Hein. Il suffit de mettre quelqu'un d'autre comme désirant pour que ça vienne susciter le désir.
Ça peut être de l'envie.
Comment?
Sauf que ça peut être de l'envie.
Ah là, ça peut être de l'envie aussi, tout à fait. Enfin bon, voilà, il y a toutes ces questions. Bon, on ne va pas prendre trop de temps parce qu'il faut laisser de la place aux intervenants pour pouvoir épuyer leurs propos, mais on va pouvoir y revenir tout au long de la journée si vous le souhaitez.